Heidegger rapporte très fièrement, les gens disent, ce Heidegger, c'est un vrai renard. Or, voilà l'histoire très véridique du renard Heidegger. Il était une fois un renard si peu rusé que non seulement il tombait régulièrement dans les pièges, mais ne savait même pas faire la différence entre un piège et ce qui n'en est pas un. Ce même renard avait en outre une infirmité liée à quelques légers défauts de son pelage, en sorte que lui manquait totalement la protection naturelle dont jouissent les autres renards face aux intempéries auxquelles est exposée une vie de renard. Après que notre renard eut passé le plus clair de sa jeunesse à se démener dans les pièges tendus à d'autres comparses, tant et si bien qu'il n'était pour ainsi dire plus une seule touffe de sa fourrure qui s'en sortit indemne, il prit la résolution de se retirer entièrement du monde des renards et se mit à construire son terrier. Dans son ignorance inimaginable de la différence entre les pièges et les non-pièges, mais fort de son incroyable expérience en matière de pièges, il eut soudain une riche idée qui, de mémoire de renard, n'était jamais venue à aucun goupil. Il s'aménagea un piège en guise de terrier, s'y établit à demeure et le fit passer pour un terrier parfaitement normal, non par ruse, mais parce qu'il avait toujours pris les pièges où il arrivait aux autres renards de tomber pour leur terrier. Mais il s'avisa néanmoins de devenir rusé à sa manière, en apprêtant le piège arrangé par ses soins, et qui ne convenait qu'à lui seul, en piège accueillant pour quiconque voudrait seulement se donner la peine d'entrer. Ce qui témoignait une fois de plus de sa grande ignorance en matière de pièges. Nul ne pouvait se trouver à l'aise dans son piège, vu que lui-même occupait déjà les lieux. Et cela le contrariait beaucoup. On sait bien, malgré tout, qu'il arrive à tous les renards de tomber à l'occasion dans des pièges, si rusés soient-ils. Comment donc se pouvait-il qu'un piège à renard, disposé de surcroît par le plus expert en pièges de tous les renards, fit piètre figure en comparaison des pièges tendus par les hommes et les chasseurs. Pour la bonne raison, se dit-il, que le piège n'était pas assez clairement signalé comme piège. Notre renard eut donc l'idée de décorer son piège fort joliment et de disposer partout des signaux indiquant fort clairement « Venez tous, venez donc voir un piège, le plus beau piège du monde. » Une chose devint parfaitement claire, c'est que si d'aventure un renard allait se fourrer dans ce piège, ce n'était pas faute d'avoir été prévenu. Et pourtant, ils furent nombreux à venir. Car, nous l'avons dit, ce piège faisait office de terrier pour notre renard. Voulait-on lui rendre visite dans le terrier qui était son chez-lui, il fallait bien entrer dans le piège. Tout autre que lui pouvait assurément aller voir ailleurs. Lui, non, parce que son piège lui était au sens propre du mot, taillé sur mesure. Ce qui fait que notre renard, ayant élu domicile dans son piège, disait fièrement « Mon piège attire beaucoup de monde, me voilà devenu le meilleur de tous les renards. » Il y avait bien là une barre de vérité, mais nul ne s'y entend mieux en matière de piège que celui qui, sa vie durant, a élu domicile dans un piège. Madame de Lovel a dit tout à l'heure que nous allions vous présenter le volume des lettres échangées entre Heidegger et Hannah Arendt. Je vais me limiter aux deux pages que je viens de vous lire, et c'est un bien curieux texte que vous venez d'entendre. Et ce texte est d'Hannah Arendt. Il n'est pas de Kafka, comme on pourrait le penser. parce que bon, il a certaines ressemblances évidentes avec les histoires d'animaux de Kafka, et le mot terrier en particulier fait irrésistiblement penser à Kafka. Non, ce texte est d'Anna Arendt, et c'est un texte qu'on a retrouvé dans ses papiers après sa mort, que son dernier assistant a publié, et qui a la nature problématique de toutes les publications posthumes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce texte? Bon, est-il achevé? Est-il inachevé? Dans quelle intention au juste a-t-il été écrit? L'aurait-elle publié un jour? Le gardait-elle en réserve? Souhaitait-elle qu'il soit publié? Toutes ces questions-là se posent inévitablement. Je ne vais pas m'y étendre, mais ce n'est pas du tout pour les esquiver, parce que il n'y a qu'elle qui pourrait répondre à ce genre de questions. Je ne peux évidemment pas le faire à sa place. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un texte qu'elle a gardé par-devers soi. À notre connaissance, elle ne l'a jamais montré à personne. Mais c'est un texte singulier qui donne à réfléchir, qui est énigmatique. Et donc, j'ai choisi d'essayer de vous en parler. S'agit-il d'une critique de Heidegger, comme le dit Madame Ursula Lutz, qui a édité le texte allemand que vient de traduire en français Pascal David? Pourquoi pas? Personnellement, cette caractérisation du texte ne me convient pas tellement, car je suis surtout sensible au paradoxe et à la diversité de plans que présente ce texte, qui est tout en dédoublement. Savoir si ce texte est gentil ou pas est secondaire. Si dans ce texte Anna Arendt critique Heidegger, il faut alors prendre le verbe critiquer dans un sens élevé, en pensant par exemple presque au sens positif que donne Kant au mot critique dans l'emploi très célèbre qu'il a fait de ce mot. Elle ne dénigre pas Heidegger, même si le texte est humoristique et parfois moqueur. Ce texte a l'allure d'une fable. Dans les fables de La Fontaine, il y a une morale. Enfin, les fables de La Fontaine délivrent une morale. Les histoires d'animaux de Kafka laissent sur une énigme. Ici, c'est l'énigme qui domine, et je ne me fais pas fort de la résoudre. Mon propos, c'est simplement d'essayer de vous dire, en m'en tenant à ce texte, puisque je vous dis, sur les tenants et aboutissants du texte, nous sommes dans l'ignorance de ce que du sens que lui donnait Anna Arendt elle-même. Donc tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous dire comment je comprends personnellement ce texte et comment je réagis par rapport à lui. J'ai parlé de Kafka parce que ça s'imposait, j'ai parlé de La Fontaine parce que ces histoires de renards nous font évidemment penser aux fables de La Fontaine. Mais on pourrait même penser à Platon, car comme Platon, elle mène dans ce texte plusieurs tâches de front. Que fait-elle au juste? Elle s'interroge. Elle s'interroge sur Heidegger, c'est-à-dire sur quelqu'un qu'elle connaît depuis presque 30 ans. Le texte a été écrit durant l'été 1953. Donc, à cette époque-là, elle connaît Heidegger depuis longtemps, elle le connaît intimement. Après les relations étroites qui ont été les leurs dans les années 20, elle a renoué des relations avec lui en 1950. Et cet homme qu'elle connaît depuis si longtemps et si profondément, et avec toute sa culture, toute son intelligence, avec l'intérêt passionné qu'elle porte à son œuvre, cet homme l'intrigue toujours, et elle n'a jamais fini de chercher à essayer de comprendre quel est l'homme qu'elle a en face d'elle. Et donc je crois que c'est cette interrogation qui porte le texte, et dans la mesure où ce texte nous plonge dans la perplexité, il nous suggère et nous transmet cette perplexité d'Anna Arendt elle-même devant le phénomène Heidegger. Le phénomène Heidegger, elle l'observe. Elle s'emploie à le cerner. Et je pense que sa réflexion se préoccupe surtout de cerner ce qui apparaît du phénomène Heidegger aux yeux de tout le monde, aux yeux de la majorité des gens, et notamment de la majorité, en tant que la majorité des gens, par définition, s'en tient toujours aux apparences. Et implicitement, elle compare ce qu'elle sait, elle, de Heidegger, dont elle a une connaissance privilégiée, avec ce que les autres en voient, en savent et en disent. Et en tout cela, elle pense à sa manière, qui est phénoménologique et qui est politique. Tout ce que je viens de dire déjà soulève des problèmes et comporte des paradoxes. C'est un texte qui relève de ce qu'on appelle littérature intime. Mais on peut se demander si c'est bien ainsi qu'on se parle à soi-même. Ce n'est pas une page de journal intime, puisque, par exemple, elle adopte une formule littéraire bien caractérisée qui est celle de la fable, de l'historiette, de la parabole. Et pourquoi recourt-elle à ce procédé? Est-ce qu'elle destine ce texte un jour à une publication et lui donne une forme imagée qui le rend accessible au public le plus large possible, donc à un public aussi large que le public des Fables de La Fontaine? Ou est-ce que ça n'est pas plutôt pour elle un moyen de distanciation face au phénomène Heidegger sur lequel elle s'interroge? Et c'est ici qu'entre en jeu le pastiche de Kafka, qui est une espèce de jeu, plus ou moins réussi d'ailleurs, parce que les histoires d'animaux de Kafka sont par exemple beaucoup plus brèves que ce texte en général, mais c'est une espèce d'exercice de pastiche qui lui permet de se camper à une certaine distance du personnage qui la préoccupe. La méthode chère à La Fontaine, notamment, qui consiste à faire parler les animaux, est évidemment une méthode très efficace. Car si ce texte, par exemple, a été envisagé comme publiable, elle l'écrit en tout cas pour les autres ou comme pour les autres, et c'est un moyen de faire justement ressortir comment Heidegger apparaît aux autres. Sous l'artifice littéraire, c'est la pensée d'Hannah Arendt qui est à l'œuvre dans ce texte, et cette pensée est politique. La condition humaine est un livre dont Hannah Arendt dit dans sa lettre à Heidegger du 28 octobre 1960 « Il te doit pratiquement tout ». Et comme le disait Pascal David il y a quelques instants, il serait vain ou enfantin de chercher des influences au sens scolaire dans l'œuvre et la pensée d'Hannah Arendt. Mais ce qui caractérise ce livre fondamental d'Hannah Arendt, c'est que c'est un livre dans lequel est posé en principe qu'être homme, c'est être au monde. Qu'être homme, c'est être avec. Qu'être homme, c'est non seulement prendre place dans le monde, mais par là même apparaître dans le monde. Apparaître dans le monde, ça c'est un thème fondamental de la pensée d'Hannah Arendt, et dans cette petite parabole, elle soumet Heidegger, le phénomène Heidegger, comme je disais tout à l'heure, à ce type de réflexion. Le lien entre homme et monde est un lien hautement problématique, car qui dit monde dit équivoque. Et elle sait bien, pour avoir lu Être et Temps, que dans un monde où l'équivoque va de pair avec le on-dit, la lumière de ce qui est public obscurcit tout. C'est une phrase de Heidegger à laquelle elle a fait un sort, notamment dans la préface du livre traduit en français sous le titre « Vie politique ». En 1953, à l'époque où elle écrit ce texte, Heidegger est une célébrité mondiale, ce qui est aussi une manière insigne d'apparaître dans le monde et qu'il expose au plus haut point au on-dit. Or, c'est le on-dit qui est justement le point de départ du texte auquel j'en viens maintenant. Les gens disent « Heidegger est un renard ». Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens qui disent ça, on peut s'interroger. Aucun de nous, finalement, n'a jamais entendu dire ça. Et pourtant, cette formule elle est d'un type tout à fait courant. On trouve par exemple dans l'évangile de Saint-Luc un endroit où Jésus appelle Hérode ce renard. Et puis des formules de ce type, quand on dit d'un homme c'est un requin, ou c'est une anguille, ou ce n'est pas un aigle, sont bien connues. Les gens, paraît-il, diraient que Heidegger est un renard. Mais la phrase qui court les rues, c'est plutôt une phrase du type « Bon, Heidegger est un grand philosophe du XXe siècle, ou certains diront peut-être même le plus grand. On dit cela comme on dit que Velázquez est le plus grand peintre espagnol. » Si on dit de Heidegger qu'il est un renard, tout le monde comprend qu'il est rusé comme un renard, que c'est un malin, qu'il n'a plus d'un tour dans son sac. On pense alors aux origines paysannes de Heidegger, qui sont si sensibles, si visibles dans son allure physique, telle qu'on le voit sur des photos. Un paysan, il a une tête de paysan têtu et madré. Dire cela d'un philosophe est quand même étrange. Car on a comparé Socrate à un thon, à un silène, à un poisson-torpille, ce qui est un peu bizarre aussi. Mais pour faire honneur à un philosophe, on dit de lui qu'il est profond, qu'il est subtil. L'allégorie de la caverne n'est pas une ruse de Platon. Les gens disent « Heidegger est un renard ». Mais quels sont ces gens? Et là, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut être attentif à la date du texte qui a été écrit en 1953, c'est-à-dire à l'époque où Hannah Arendt reprend pied peu à peu en Europe et en Allemagne, son pays d'origine, qu'elle a dû quitter en 1933. La période d'après-guerre tire sur sa fin. L'Allemagne de l'Ouest commence à se reprendre, à émerger de ses ruines. En fond de décor de la phrase « Heidegger est un renard », il y a la catastrophe allemande. Parlons donc de la catastrophe allemande. Hitler écrasé, sa défaite marque l'Allemagne d'une honte ineffaçable, une honte devant l'histoire. Âprement disputée, la bataille de Stalingrad a donné en 1942-43 le signal du désastre. Pendant des mois, des années entières, l'Allemagne a été soumise à des bombardements implacables. La Seconde Guerre mondiale s'achève avec, pour ce qui est des Allemands, un bilan d'environ 8 millions de morts. Les populations allemandes qui vivaient parfois depuis des siècles au centre et à l'est de l'Europe en sont brutalement chassées. 11 millions d'Allemands environ vont ainsi chercher refuge en Allemagne. Cet exode effroyable qui a jeté près de 11 millions d'Allemands sur les routes a fait, pour autant qu'on sache, à peu près 2 millions de morts. Les toutes premières années après la capitulation voient les Allemands en proie à un dénuement affreux, réduits qu'ils sont à camper dans les décombres. La faim, le froid et une épouvantable démoralisation sont leur lot quotidien. Quant aux soldats allemands, qui, à la fin des hostilités, ont été faits prisonniers par centaines de mille, ils connaissent des conditions de captivité auxquelles ils ne résistent pas tous, loin de là. Les vainqueurs jugent les criminels et dévoile au monde entier la monstruosité du nazisme, des Allemands qui sont d'honnêtes gens, qui ont pâti parfois cruellement de la dictature hitlérienne et n'ont rien fait d'indigne, il y en a, ceux-là ne peuvent alors que baisser la tête et se dire en serrant les dents, nous aussi, nous avons eu des morts. Quel est dans ce désastre l'Allemand qui n'a pas pleuré des larmes de sang? Et Heidegger. Qu'en est-il de Heidegger dans tout cela? Où est-il? Que fait-il? Que devient-il? Première chose à dire, il est en Allemagne et pas ailleurs. Il est à Fribourg. Heidegger n'a pas émigré. Exposé au même risque que tous les Allemands, il est resté avec les siens, il est resté à son poste, Il n'a pas abandonné ses étudiants, ce qui n'avait rien d'héroïque, mais n'était pas non plus spécialement facile. Non, ce n'est pas sous un ciel étranger, à l'abri des ailes étrangères que j'étais, mais au milieu de mon peuple, là où, pour son malheur, mon peuple était. J'avoue qu'en lisant ces vers d'Anna Akhmatova, je ne puis m'empêcher de penser à Heidegger. Mais encore, à notre question, qu'a fait Heidegger au milieu de la catastrophe allemande ? La réponse à donner est d'un genre assez particulier, puisque c'est dans le catalogue de l'édition intégrale de ses écrits qu'il faut en fait la chercher. Elle tient dans la liste soigneusement établie des textes en tout genre qu'il a écrits au cours des années 40. Cette réponse tient en fait en trois mots. Il a travaillé. Il n'a pas arrêté de travailler. Aussi incroyable que cela paraisse, la Seconde Guerre mondiale, avec tout son tumulte et toutes ses atrocités, n'a apparemment affecté ni entravé l'impressionnante régularité et la fécondité de son travail. Ce qui implique évidemment qu'il a pu le faire, qu'il n'a donc pas été arrêté, ni avant, ni après 1945. Le centre de Fribourg a été bombardé en novembre 1944, mais le faubourg de Zeringen, où il habite, n'a pas été touché. Sa maison n'a pas non plus été pillée. Son chalet de Tottenauberg est également intact. En fin de compte, si étonnant soit-il, le fait est que Heidegger, pour autant qu'on puisse lui en attribuer le mérite, a réussi à sauver sa vie, sa famille, ses manuscrits, sa bibliothèque. Quand les troupes soviétiques sont entrées à Berlin en 1945, la femme du poète Gottfried Benn s'est suicidée. Mais Elfriede Heidegger, elle, ne s'est pas suicidée. Fait prisonnier sur le front de l'Est, les deux fils de Heidegger vont connaître en Russie de dures années de captivité, mais ils en sortiront vivants et reviendront. Dans sa lettre du 6 février 1951, Heidegger raconte à Hannah Arendt qu'à Noël, pour la première fois depuis des années, toute la famille a été réunie. Que de maisons allemandes, pourtant, où les fêtes de famille sont l'occasion de compter et recompter les places vides. Des Allemands dont on peut dire qu'ils ont tout perdu, il y en a par millions. Heidegger, lui, n'a pour ainsi dire rien perdu. Des soldats français de l'armée d'occupation qui occupent Fribourg sont venus un jour chez lui et ont emporté un piano. Heidegger travaille. La lettre sur l'humanisme qu'il va adresser en décembre 1946 à Jean Beaufret fournit un bon échantillon du travail de ces années-là. Pour le seconder, Heidegger a un frère qui habite Meskirch, sa ville natale. Là aussi, le frère, sa femme, les deux fils, la maison ont échappé au pire. C'est Fritz Heidegger qui tape à la machine les manuscrits de son frère. Face à ce qu'a souffert la plupart des Allemands, Heidegger fait presque figure de miraculé. Au lendemain de la guerre, sa célébrité mondiale augmente très sensiblement. En France, par exemple, et en dépit du contresens total fait par Sartre sur sa pensée, sa réputation de grand philosophe s'établit définitivement. Quand on pense au malheur, à l'imminente possibilité du malheur humain dont a si bien parlé Simone Weil, force est bien de le reconnaître, le malheur a été épargné à Heidegger. Et c'est là, probablement, une des raisons du silence très décent qu'il a observé après la guerre et qui me semble être une façon de dire « je n'ai pas à me plaindre ». C'est peut-être aussi ce qui l'a alors rendu plus vulnérable et la désigner pour être, dans une certaine mesure, une sorte de bouc émissaire. On ne s'est pas gêné avec lui, comme on l'aurait fait si, à l'exemple de tant d'Allemands, le désastre s'était abattu sur lui de tout son poids. Dans les conditions que je viens de retracer, il ne manque pas de gens qui, au lieu de dire « Heidegger a eu une chance à peine vraisemblable », préféreront dire « Heidegger est un renard ». Même si personne n'a sans doute jamais dit cela exactement dans ces termes-là. Aux yeux de beaucoup d'Allemands, Heidegger constitue un cas qui suscite réactions et commentaires. Comment se peut-il qu'un homme ait eu au milieu du désastre général une telle chance? Comment cet homme a-t-il fait pour mener si sûrement sa barque dans cette épouvantable tourmente? Comment a-t-il pu s'en tirer avec si peu de dégâts? Il y a là de quoi alimenter commentaires et commérages. Le texte d'Anna Arendt est tout en dédoublement. Et la phrase « Heidegger est un renard » est évidemment à double entente. Elle peut être dite avec bienveillance et traduite alors une admiration mêlée de stupéfaction. Avec quelle intelligence, quelle lucidité, quel sang-froid, quelle ténacité ce Heidegger a manœuvré au milieu de tant de dangers. Et quand au lendemain de la guerre, les autorités d'occupation, qui lui cherchent parfois noise, menacent de l'arrêter, elles ne réussiront pas vraiment à avoir prise sur lui. Aucune des sanctions qui l'ont alors frappé ne l'ont empêché de travailler. Il ne peut plus enseigner, mais il peut toujours écrire et même publier, et il ne s'en prive pas. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Tissot. Le pasteur Tissot, c'était un pasteur de confession évangélique qui vivait à Nantes entre 1920 et 1950. Il était marié à une Danoise, il savait très bien le danois, et dans un petit bourg de Vendée où il passait ses vacances, il traduisait Kierkegaard. Et il éditait pratiquement à compte d'auteur ses traductions de Kierkegaard. Eh bien, le pasteur Tissot, il est arrivé ceci, c'est que le 16 septembre 1943, la ville de Nantes a été bombardée. Bon, le pasteur Tissot ne se trouvait pas chez lui au moment du bombardement, il n'est pas mort, mais sa bibliothèque, ses manuscrits, tout a été réduit en quelques minutes en cendres. Et bien, quand je pense à cette histoire du pasteur Tissot, je ne peux pas m'empêcher de me dire que on avait proposé en 1929 et dans des conditions très, très flatteuses et très avantageuses à Heidegger une nomination à l'université de Berlin. Aujourd'hui, il n'est pas difficile d'imaginer ce qui serait arrivé si Heidegger avait accepté cette invitation. Installé à Berlin, Heidegger se serait retrouvé en 1943-44 sous les bombes. Il serait peut-être mort. Ses manuscrits auraient été réduits en cendres. Il faut préciser que l'offre qui lui avait été faite en 1929 avait été renouvelée dans les années suivantes. Et Heidegger a même publié à ce sujet en 1934 un petit texte intitulé « Pourquoi nous restons en province ?» qu'on peut lire dans l'édition des écrits politiques de Heidegger, ayant été de nouveau sollicité de venir occuper à Berlin la chaire de Fichte et de Hegel. Ces refus répétés avaient certainement déconcerté à l'époque. Mais quand on sait ce qui est advenu dans la décennie suivante, on se dit quel flair il a eu de décliner l'appel à Berlin. Quel renard que ce Heidegger! Pourtant, la phrase « Heidegger est un renard » n'est pas nécessairement bienveillante. Il se peut aussi qu'elle traduise une réaction de scepticisme distancé. L'Allemand moyen qui a tant pâti et qui entend dire que ce grand génie a traversé presque sans dommage ces années de cauchemar peut avoir l'impression que, comme on dit dans les cours d'école, ce n'est pas de jeu. À ses yeux, Heidegger s'en est trop bien tiré et il se dit qu'un homme qui a manœuvré avec une telle sûreté ne peut pas être tout à fait honnête. N'y a-t-il pas des cas où la ruse dégénère en habileté diabolique? L'homme de la rue est enclin, non sans certaines raisons, à penser qu'on lui cache en tout ou en partie la vérité et que, comme il aime à dire, il y a des dessous. Pour lui, un personnage de ce genre est si éloigné, si différent de tout ce qu'il connaît, que la distance qu'il ressent entre Heidegger et lui l'incite plus à la méfiance et même au mépris qu'à l'admiration. Cet homme-là n'est pas comme nous. Ce Heidegger ne serait-il pas un de ces beaux messieurs, brillants au dehors et véreux au dedans, dont nous connaissons en France des exemples de toutes sortes, avec des personnages comme, je sais pas, François Mitterrand ou Sacha Guitry, qui savent se tirer à leur avantage de toutes les situations et qui voyagent, quoi qu'il arrive, en première classe. Ainsi pourrait s'expliquer une certaine rancœur à l'écart de Heidegger qu'on rencontre encore quelquefois en Allemagne. Après tout, il y a des cas où renard s'emploie en un sens très voisin de fourbe, ou même de canaille. C'est un fait qu'aujourd'hui, en Allemagne, le nom de Heidegger n'éveille en règle générale ni intérêt, ni respect, ni sympathie. Heidegger est un renard. Hannah Arendt s'interroge. Elle inspecte, elle examine, elle analyse. Elle interprète sous de multiples facettes l'homme qui l'intéresse au plus haut point. Quand le petit prince rencontre le renard, il le regarde lui aussi avec curiosité, avec intérêt et même avec un certain ravissement. Puis il lui demande étonné : qui es-tu, toi ? Tu es bien joli. Et s'attire aussitôt cette réponse confondante de simplicité : je suis un renard, dit le renard. Dans le texte d'Anna Arendt, les choses ne se passent pas tout à fait ainsi. Rappelons-nous que les tout premiers mots du texte ont été « Heidegger dit, et il n'en est pas peu fier, les gens disent, etc. » Les voleurs ont rarement des têtes de voleurs, et ceux qui attirent sur eux le surnom de renard ne se présentent jamais en déclarant « je suis un renard ». La fierté affichée par Heidegger à la première ligne du texte contredit manifestement son propos. Le renard est l'incarnation de la ruse. Or, la fierté avec laquelle Heidegger colporte ici le on-dit dénote de sa part une colossale, une désarmante naïveté. On ne peut rêver plus totale contradiction. C'est à se demander si Hannah Arendt veut faire passer Heidegger pour un idiot. Mais revenons à la réalité. Et cela peut nous amener à retoucher sensiblement l'image tracée jusqu'ici d'un Heidegger miraculeusement rescapé du grand naufrage par la vertu de sa prudence, de sa pénétration, de sa longanimité et que sais-je encore. D'abord, la situation où se trouve Heidegger en 1945 et après 1945, si on l'examine attentivement, n'est pas aussi brillante que cela. Elle est même, par certains côtés, presque dramatique. L'immense malheur dans lequel est plongé son pays ne le laisse évidemment pas indifférent. Nous savons aujourd'hui que ses fils, prisonniers en Russie, rentreront un jour. Mais en 1945, il n'en sait rien et il partage avec ses compatriotes le tourment de l'incertitude sur le sort de ceux qu'on appelle prudemment differmistes, les disparus. Son cas embarrasse l'autorité militaire française qui occupe et administre la région de Fribourg, et il n'échappe pas à une procédure aménagée de dénazification. L'hostilité de longue date des catholiques de Fribourg à son égard ne désarme pas. Très vite, sa situation universitaire va devenir incertaine. Et si, entre 1933 et 1944, il avait réussi à sauver son enseignement, il va bientôt se voir retirer l'autorisation d'enseigner. Tant pis pour le piano, mais il est maintenant question de lui confisquer sa bibliothèque. Après les difficultés, les tensions des années de guerre, et du fait des privations de l'après-guerre, Sa santé est si ébranlée qu'il doit faire un séjour en clinique. Le fin renard a peut-être sauvé l'essentiel, mais sa belle fourrure n'est plus tellement présentable. Il n'y a pas de quoi faire le fier, et si renard il y a, c'est un renard qui rase les murs. Si enviable que puisse penser sa position, que puisse sembler sa position comparée à celle des innombrables victimes de la Seconde Guerre mondiale, il ne s'en retrouve pas moins dans un véritable pétrin. Et puis, il ne saurait être une seconde question d'oublier que s'il a fini par trouver le moyen de survivre, de naviguer, de durer dans l'Allemagne hitlérienne, sans se déshonorer et sans se trouver acculé à émigrer, s'il a appris à la longue comment ruser avec la Gestapo et déjouer quelque peu les maléfices d'un régime totalitaire, il avait commencé par se tromper grossièrement sur Hitler et par proclamer que 1933 pourrait constituer pour l'Allemagne un nouveau départ. Il est bien connu, dit Anna Arendt, qu'en dépit de toutes leurs ruses, il n'est pas de renards qui ne finissent par tomber un jour dans un piège. L'allusion est claire. Si, comme nous l'avons vu, le sobriquet de renard peut en un certain sens convenir au Heidegger des années 40, il faut dire aussi et redire que ce renard-là a commis en 1933 une colossale erreur et que, nouvelle, cruelle et énorme contradiction, ce rusé prétendu est purement et simplement tombé dans un panneau. Les succès qu'a remporté Hitler, sitôt parvenu au pouvoir, tiennent en assez grande partie à son génie de la démagogie, c'est-à-dire de la tromperie. La vérité historique, la triste vérité, est que Hitler a roulé tout le monde, y compris Heidegger. Il est donc bien connu qu'en dépit de son exceptionnelle puissance intellectuelle, en dépit de toute la sagacité qu'on lui suppose, le renard Heidegger n'a pas fini, mais a plutôt commencé par tomber dans un énorme piège. Qu'il ait réussi non sans mal à s'en dégager, qu'il se soit efforcé 10 ans durant, de 1935 à 1945, de réparer autant qu'il était possible de le faire dans les conditions de l'époque son erreur initiale, doit lui être compté. Mais faire de lui l'emblématique renard, cher à Goethe et à La Fontaine, serait lui prêter beaucoup plus qu'il en pourrait rendre. Et puis l'histoire ne s'arrête pas en 1945. À cette date-là, Heidegger a encore devant lui plus de 20 ans à vivre. S'il est, selon la formule, un renard, alors demandons-nous un peu quelle vie de renard il a pu mener de 1945 à 1976. Là encore, le tableau demande à être fortement nuancé. Ne pouvant passer maintenant en revue tous les aspects de la pensée et de l'activité de Heidegger durant cette vingtaine d'années, tenons-nous-en aux questions concernant ses démêlés avec le régime hitlérien. Quand on considère cette période, elle apparaît dominée par une polémique, presque continuelle, et qui semble à peu près sans issue. Les uns disent, il était nazi. Et le font avec toute apparence de raison, puisque Heidegger a bel et bien adhéré au Parti socialiste national des travailleurs allemands au début mai 1933. Les autres disent qu'il n'était pas nazi, et le font avec toute apparence de raison, puisque au bout d'à peu près 18 mois, Heidegger avait perdu toute illusion sur Hitler, l'appelant dès 1935 dans des conversations privées le criminel en chef. Il est important de souligner que Heidegger n'a pas émigré comme je l'ai fait tout à l'heure. Dans la lettre qu'il a adressée à Anna Arendt le 6 mai 1950, il lui dit que c'est vers 1937-38 qu'il a commencé à voir clairement la catastrophe de l'Allemagne. Si la mise en place du régime hitlérien s'était d'abord entourée de pas mal d'ambiguïtés, il est aujourd'hui clair qu'à partir des pogroms de novembre 1938, il n'y avait plus la moindre équivoque possible sur la nature du régime et sur son antisémitisme criminel. L'équivoque, c'est justement le titre d'un des paragraphes des traitants, et j'y pensais évidemment quand, en commençant, je vous disais tout à l'heure, qui dit monde dit équivoque. Il serait trop long de reprendre par le menu toutes les polémiques auxquelles a donné lieu le cas Heidegger depuis une cinquantaine d'années. L'épisode significatif auquel je vais me limiter à présent est celui de l'année 1953, puisque c'est justement vers août ou septembre 1953 que Hannah Arendt note sur un cahier la véritable histoire du renard Heidegger, et il y a un lien, je crois, évident entre la fable qu'elle élabore et certains débats qui sont alors dans l'air. C'est en effet en 1953 que Heidegger, vivement encouragé à cela par Jean Beaufray, livre à la publication le texte d'un cours qu'il a fait pendant le semestre d'été 1935 sous le titre « Introduction à la métaphysique ». Or, une phrase de ce cours, prononcée en pleine période hitlérienne, soulève alors, au moment de sa publication en 1953, un tollé, et elle va nourrir d'incessantes polémiques pendant des années et des années. Cette phrase la voici. Ce qui est mis aujourd'hui sur le marché comme philosophie du socialisme national, mais qui n'a rigoureusement rien à faire avec la vérité interne et la grandeur de ce mouvement, à savoir avec la rencontre entre la technique dans sa dimension planétaire et l'homme moderne, fait sa pêche dans les eaux troubles de ses valeurs et de ses totalités. Il n'aurait tenu qu'à Heidegger de caviarder la phrase en question, et c'est ce que n'aurait pas manqué de faire le fameux renard que d'aucuns se plaisent à voir en lui. Publiée en 1953, cette phrase peut au premier coup d'œil donner l'impression que Heidegger fait l'éloge du mouvement hitlérien, qu'il est donc bien, comme le prétendent ses détracteurs, un nazi impénitent. En 1953, il enseigne à nouveau, l'autorisation de le faire lui ayant été rendue 2 ans plus tôt, ce qui l'a fait sortir d'une période de quarantaine où il n'avait pu que difficilement s'exprimer publiquement en Allemagne. La publication, le maintien de cette phrase dans un texte qui remonte à 1935, est-elle une provocation? Faut-il y voir, beaucoup plus banalement, une gaffe? Une chose est sûre, c'est que dans cette affaire, Heidegger, comme le renard de la parabole, fait preuve d'une effarante ignorance de ce qui sépare un piège d'un non-piège. Aux prises avec une polémique à peu près permanente, Heidegger se défend bien mal. Tantôt il ne dit rien, tantôt il parle à contre-temps, il ne fait et ne dit pratiquement jamais ce qu'on attend de lui, et dans le cas présent, il aggrave manifestement son cas. Un renard qui accumule ainsi les maladresses fait bien piètre figure sur la scène du monde. À l'époque, Hannah Arendt suit évidemment l'affaire avec attention, observe les remous qu'elle provoque. Sans doute pressent-elle quelque obstinée rigueur derrière l'attitude étrange de Heidegger, mais elle se rend surtout compte à quel point ce genre de comportement est peu compréhensible pour l'opinion publique. Heidegger l'intrigue, car il y a des moments où il la déconcerte, d'autres où il l'agace, d'autres encore où il lui fait presque pitié. Le regard qu'elle dirige sur lui n'est pas plus indulgent que celui que porte la servante Thrace dans le récit de Platon. Voir le grand Thalès culbuté dans une cuve, c'est quand même une scène d'un comique rare. Et c'est, je crois, tout cela qu'elle consigne par écrit quand elle se raconte à elle-même la très véridique histoire du renard Heidegger. C'est là sa façon à elle, humoristique et subtile, de se demander comment un philosophe de célébrité mondiale peut-il faire si piètre figure? Comment celui qui passe pour être le plus grand penseur de notre temps a-t-il pu se laisser tenter et piéger par ce qui reste à nos yeux la plus grande abomination du siècle? Comment se peut-il, au scandale, que le premier philosophe du XXe siècle ait pu être membre du parti nazi? Comment le divorce entre apparence et réalité peut-il prendre de pareilles proportions? Et c'est Kafka qui lui fournit un cadre, un style et une sorte de trame à ses réflexions. Si elle était Baudelaire, elle écrirait l'Albatros. Je vous lis pour finir ce poème. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur aîné, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des nuées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.